Les nuits de France Culture.
Une planète qui se dirige à une vitesse fulgurante vers la nôtre. Un vieil astronome de génie qui cache bien son jeu. Une planète séparée en deux, les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre. Et pour rajouter de la jeunesse, un zeste de romantisme, un jeune apprenti astronome et sa bien-aimée, dont l'amour défie l'imminence de la fin du monde. Voilà la formule de cette savante fiction intitulée « Les yeux de la planète », une adaptation par Jean Luc pour le roman de la science de L'œil géant, une œuvre de l'auteur américain Max Ehrlich. On y retrouve tous les marqueurs et les topos de ces scénarios d'une fin du monde d'origine cosmique, maintes fois repris dans la fiction du XXe et du XXIe siècle. Il y a pourtant autre chose en jeu qu'une simple collision de deux planètes. Le monde, prenant conscience de sa mort proche, se défait de toutes ses guerres et ses conflits pour se concentrer sur l'essence même de la vie. C'est une renaissance inespérée pour un monde fracturé, le spectacle joyeux d'un baroud honneur avant la fin des temps. Une émission diffusée pour la première fois le 6 mars 1952 sur la chaîne parisienne, avec des interprétations de Marguerite Cassan, Marc Casso, Christian Delano et Jean Di, le tout réalisé par Pierre Billard.
La radiodiffusion française présente Le roman de la science, une émission de Jean-Luc réalisée avec le concours de Pierre Billard. Aujourd'hui, Les yeux de la planète, une adaptation du roman de Max Ehrlich, L'œil géant, interprété par Marguerite Cassan, Marc Casso, Christian Delano et Jean Di.
Continuant à explorer le rayon des merveilles de la science, nous évoquerons aujourd'hui les progrès de l'observation astronomique. C'est un grand sujet scientifique. Cependant, nous n'oublierons pas que les révélations du ciel étoilé, étudiées par les hommes avec des moyens de plus en plus puissants, constituent un thème aussi exaltant pour la fantaisie des romanciers qu'il peut l'être pour l'orgueil des savants. C'est pourquoi nous commencerons par vous conter à notre manière une des dernières anticipations américaines inspirée par ce thème, « L'œil géant » de Max Ehrlich. November 15, 1960. Nous sommes dans le bureau du professeur Dawson, directeur de l'observatoire de Palomar, Californie. L'illustre savant est un vieillard fluet, à l'expression ascétique, sous son casque de cheveux blancs ébouriffés. À ses côtés se tient David Hughes, son collaborateur immédiat. C'est un jeune homme élégant, vigoureux et sympathique. Un général en uniforme leur fait face. C'est le général Hawthorne, surnommé le Bulldog, chef du service du renseignement des États-Unis et contrôleur des travaux scientifiques intéressant la défense nationale. Le Bulldog lance au jeune astronome des regards furieux.
Je croyais vous avoir dit au téléphone, professeur, que ma visite avait un caractère ultra confidentiel.
Je puis me retirer ?
Et rester, Hughes.
Mais...
Monsieur Hughes a toute ma confiance, général.
Soit, je n'ai pas de temps à perdre à discuter.
Moi non plus, général. Au fait...
Eh bien, vous devez penser, monsieur le professeur, que je n'ai pas traversé l'Amérique dans les circonstances présentes pour vous demander votre avis sur les théories d'Einstein.
Je m'en doute. Hélas...
Je suis venu vous inviter à la conférence extraordinaire qui aura lieu demain matin, à 11h, au nouveau quartier général souterrain de nos forces, près de New York. L'élite de nos savants sera là.
Mais pourquoi vous êtes-vous dérangé en personne?
Parce que je vous connais, professeur. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup les conférences militaires.
En effet.
Il faut que vous soyez là demain. Professeur.
Puis-je vous demander de quoi il sera question ?
Il sera question de savoir si nous devons, oui ou non, attaquer sur le champ les Soviets avec toutes les armes dont nous disposons.
Ah, vous en êtes là. Vous n'hésiteriez pas à frapper les premiers, malgré toutes nos traditions.
Bah, fichez ! Est-ce qu'ils songent aux traditions, les gens d'en face? Vous savez aussi bien que moi qu'ils ont commencé.
C'est une hypothèse.
Allons donc, une hypothèse. C'est une hypothèse, les catastrophes qui s'abattent sur nous depuis 3 mois sans que nous puissions même les expliquer. C'est une hypothèse, les perturbations mystérieuses qui affectent notre radio, notre télévision, nos radars. C'est une hypothèse, le raz-de-marée qui a englouti la Havane, peut-être. C'est une hypothèse, les tremblements de terre qui secouent les 4 coins du pays.
Êtes-vous bien sûr qu'il ne s'agit pas de catastrophes naturelles? Êtes-vous sûr qu'on n'a pas enregistré de phénomènes analogues sur les territoires de l'Union soviétique?
J'en ai pas entendu parler.
Mais êtes-vous informé?
Mais comment voulez-vous? Un rat des champs ne pourrait plus franchir le rideau de fer à l'heure actuelle.
Vous voyez.
Je vois ce qui se passe de notre côté, et je ne vois pas pourquoi les Russes retourneraient contre eux l'arme secrète qu'ils sont en train d'essayer sur nous.
Quelle arme?
Mais ils ont dû réussir à capter des forces cosmiques. Est-ce que je sais, moi? Enfin, c'est vous qui devriez avoir une idée. Bon Dieu, il faudra que nous tirions ça au clair à la conférence de demain.
Je regrette, général. Je n'ai pas l'intention de me rendre à votre convocation.
Bah, écoutez, professeur, c'est un ordre.
Je suis encore un citoyen libre de la libre Amérique, général. Et d'ailleurs, il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part. Seulement, il m'est impossible de m'absenter en ce moment. Je touche à la solution d'un problème astronomique plus important que l'ordre du jour de votre conférence.
Oh, vous alors, avec vos étoiles?
Et vous, avec les vôtres, général?
Oh, enfin, il s'agit de la guerre mondiale, professeur. De la guerre mondiale pour demain.
Oui, j'ai compris. Tout ce que je peux faire pour vous, général, c'est de vous envoyer Monsieur Dukes.
Oh, ce gamin? Oh.
Novembre 1960. Nous sommes dans l'élégant appartement new-yorkais de Carol Kenny, vedette de la radio. Le soleil matinal joue sur un mobilier en matière plastique. L'adjoint du professeur Dawson, David Hughes, vient d'entrer, portant une lourde serviette de cuir à la main. Carol, une jeune femme ravissante, s'est jetée dans ses bras.
David!
Ah, Carol, ma chérie!
Oh, mon chéri!
Ah, il y a si longtemps, Carole, mon amour.
Oh, mais qu'est-ce que tu viens faire à New York, mon chéri?
Je dois remplacer le vieux à une conférence d'état-major. C'est tout ce que je peux te dire.
Oh, je comprends. Sois tranquille pour les secrets que tu trimbales certainement dans cette serviette. Je sais ce que c'est. Je travaille aussi pour le général aux ordres, moi.
Ouais, justement, c'est une folie. Oui, tu ne peux pas rester à New York un jour de plus. Leur radio se passera de toi. Et nous repartons tous les deux ce soir pour la Californie. Nous nous marierons en arrivant, Carole.
Oh, chéri. Oh, je sacrifierais 10 ans de ma vie, mais... Non, mais je te répète, c'est impossible.
Mais New York est l'objectif numéro 1. Je ne peux pas te laisser au centre de la cible. Est-ce que tu ne sais pas que tout peut arriver d'une seconde à l'autre?
Je me suis engagée, David.
Ouais, écoute. Qu'est-ce qui arrive?
Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit?
Attends, ne bouge pas, Carole.
Mais...
Non, restons au milieu de la pièce, là.
Oh, mon Dieu. Oh, David! David!
Quoi?
Mais ce sont eux, David, ce sont eux! Ils font sauter New York!
Mais non, c'est un tremblement de terre!
Un tremblement de terre à New York, une ville construite sur un rocher!
Ah oui, tu as raison, moi je ne pensais plus au granit de Manhattan! Oh, c'est incompréhensible, Carole!
Oh, David!
Nous vivons un cauchemar! Oh, chérie, jure-moi que tu ne vas pas rester seule loin de moi. Tu vas partir avec moi ce soir!
Mais David, mon service à la radio...
Ah, la radio, les installations n'ont certainement pas résisté à la secousse! Jure-moi, Carole, que...
Oh, le téléphone marche, en tout cas.
Oui.
Allô, j'écoute. Oui, c'est ici. Monsieur Hughes? Ah, je vous passe. David, c'est pour toi.
Hein? Ah, bah oui, j'ai donné ton numéro.
C'est Palomar qui t'appelle.
L'observatoire?
Oui.
Bon sang. Allô? Oui, allô? Ici David Hughes. Oui, c'est moi, professeur. Rentrez tout de suite. Mais professeur, et la réunion de l'état-major? Je suis attendu à 11h. Oui, on va venir me chercher d'une minute à l'autre. Mais pourquoi, professeur? Ben pourquoi? Ah, il a raccroché.
C'était le professeur Dawson?
Oui. Oui, c'était le vieux et il veut que je rapplique tout de suite.
Tiens.
Mais qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas aussi? Le vieux est bizarre depuis un bout de temps.
Mais David, l'état-major...
Ah, tant pis pour l'état-major. Mon patron, c'est le vieux et j'obéis à mon patron. Mais je t'emmène, Carole. Oh. Oui, je t'enlève, mon amour.
Oh, mon chéri.
16 novembre 1960, le soir. Nous sommes de retour à Palomar et nous retrouvons nos deux amoureux sur une passerelle filiforme tout en haut du plus grand télescope du monde. Le plancher de la chambre d'observation est à 45 mètres au-dessous d'eux. Au-dessus d'eux, dans l'échancrure du dôme ouvert, des étoiles scintillent sur une tranche de ciel sombre. Apparemment, David fait à la jeune femme les honneurs de la maison. Carole frissonne sous le vent glacé qui semble venir du fond des espaces infinis.
Oh, tu as froid, ma chérie. J'ai eu tort de t'emmener.
Oh, mais non, David. C'est un spectacle fantastique.
Oui.
À propos, monsieur l'astronome, qu'est-ce que c'est que ça, là ?
Quoi ?
Oui, cette espèce de cuve d'acier suspendue à l'intérieur même du tube.
Oui, c'est la cage de l'observateur. Et la cage du vieux.
Ah bon ?
Et c'est là-dedans qu'il s'installe devant son pupitre de contrôle. Et c'est là qu'il me téléphone ses instructions au poste de commande. Et quand j'ai procédé aux manœuvres de visée, quand j'ai amené le télescope et lui avec à la position voulue, et il ne lui reste plus qu'à prendre des clichés.
Mais je croyais qu'il fallait regarder à travers le télescope.
Ah, ma pauvre Carole. Mais tu te crois encore autant des vieilles lunettes avec l'oculaire au bas de l'instrument ? Tu as affaire à un télescope moderne, ma chérie, avec un grand miroir parabolique dans lequel se reflètent les astres. Ah. Les astres que le patron photographie d'en haut de sa logette. Le vieux recroquevillé dans ses fourrures, tout seul entre le ciel et la terre.
Drôle de métier. Ce doit être un homme, pas comme les autres. Un homme mystérieux.
La preuve, il me fait revenir dardard de New York au risque de me faire fusiller par le général. Et j'apprends en arrivant qu'il ne peut pas me recevoir tout de suite, qu'il est en conférence.
Oh.
Et en conférence avec qui ? Avec les plus grands astronomes du monde qu'une heure après mon départ, il a convoqué ici. Mm-hmm. Manning, du Mont Wilson, Ellender, de Harvard, Pérez, de Rio, Grass, de Cambridge, Varanov, de Leningrad.
Un russe ?
Un russe.
Tu ne m'avais pas dit un russe ?
Oui, un russe qu'on a eu la chance de joindre à Mexico. Ce Varanov était venu pour un congrès international et était tombé malade.
Mais vraiment, tu ne connais pas la raison de ce remue-ménage ?
Mais personne ne sait rien. Le vieux était plus cachotier que d'habitude depuis un certain temps. Et il ne nous montrait plus rien, il ne nous confiait plus rien. Mais quand même...
Qu'est-ce qu'il va t'apprendre ? Qu'est-ce que les étoiles lui ont appris, mon chéri ?
Ah, nous ne sommes pas des astrologues, Carol. Nous savons que les étoiles n'ont rien à nous dire.
Qui sait, David ? J'ai peur du ciel ici. Il est trop près de nous. Je sens une menace et... C'est étrange. Je devine un espoir aussi.
Un peu plus tard, nous sommes dans le bureau du professeur Dawson. David vient d'y pénétrer.
Asseyez-vous, David. Je voudrais vous poser d'abord une question.
Ah ?
Croyez-vous en Dieu, mon petit ?
Quoi ?
Je vous demande si vous croyez en Dieu, David.
C'est que je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question depuis quelques années. Peut-être parce qu'un astronome n'a pas besoin de faire intervenir le Seigneur pour expliquer ce qui se passe dans le ciel.
En êtes-vous bien sûr, David ? Moi, je suis sûr du contraire. J'en suis sûr maintenant.
Vous ? Maintenant ?
Au cours de ces dernières semaines, j'ai été témoin d'un miracle, David.
Un miracle ?
Oui. J'ai vu paraître la main de Dieu. Elle s'est manifestée soudain au centre de l'univers.
La main de Dieu ?
Regardez ce cliché. Vous reconnaissez cette constellation ?
Oui, évidemment, oui. Je ne lui trouve rien d'extraordinaire sur cette photographie.
Regardez mieux. Regardez ce point lumineux.
Ah oui, en effet. Mais il ne devrait rien avoir dans ce coin-là. Ça devrait être l'obscurité totale.
Et voici d'autres clichés. Regardez.
Ah, le point lumineux supplémentaire change de position, mais il est toujours là. Je ne comprends pas, monsieur. Est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté, de quelque chose que personne n'a encore vu ?
Oui, mon petit. Nous sommes les premiers à l'apercevoir grâce à la puissance de notre télescope de 5 mètres. Mais bientôt, les autres astronomes l'apercevront à leur tour.
Oh, vous avez constaté que ça se dirigeait par ici ?
Oui.
Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça n'a pas l'air d'une comète.
Non, David. C'est une nouvelle planète.
Une nouvelle planète ?
Oui. C'est une planète qui vient d'ailleurs. Une planète qui doit provenir de l'éclatement d'une étoile géante, d'une supernova, et qui est tombée dans le champ d'attraction de notre Soleil. Elle a déjà commencé à agir sur le système solaire. Elle a dû provoquer déjà, par exemple, une fissure profonde de l'écorce terrestre qui explique les séismes récents.
Ça n'était donc pas les Russes ?
Non. Varanov m'a appris que des catastrophes analogues avaient frappé les territoires contrôlés par les Soviets. Et ils ont cru, eux aussi, à une arme secrète. Une arme secrète américaine, naturellement.
Mais ces catastrophes, ce n'est qu'un commencement, un petit commencement.
Oui, David. J'ai pu tracer l'orbite de l'intruse et j'ai constaté qu'elle plongeait avec une vitesse fantastique sur nous.
Sur nous ? Vous ne voulez pas dire que...
Sa trajectoire et celle de notre globe se couperont, David. La collision est inévitable.
Mais ce sera la fin du monde.
De notre monde, David.
Et vous savez quand, professeur ? Vous savez quand ?
Je suis arrivé à déterminer la date tout juste après votre départ pour New York. Le choc aura lieu dans 2 ans et demi, David. Le 25 décembre 1962.
Le jour de Noël.
Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans, David. Rappelez-vous le premier de tous les jours de Noël. Un astre inexplicable est apparu dans le ciel pour annoncer au monde la naissance d'un enfant et le commencement d'une ère nouvelle, l'ère de la fraternité et de la paix. Dieu descendait parmi nous pour nous exhorter à nous aimer les uns les autres. La leçon n'a pas été écoutée. Elle n'a servi à rien. Un autre jour de Noël, un autre signe céleste va marquer l'heure de la colère et de la justice d'en haut. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé si vous aviez gardé la foi.
2 ans. Nous n'avons plus que 2 ans à vivre. Oh, enfin, vous êtes certain de ne pas vous être trompé, monsieur.
J'ai appelé les plus grands astronomes du monde pour vérifier tous mes calculs.
Mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, mon petit ? Mes collègues et moi avons pensé que la seule chose à faire était d'avertir l'humanité.
Le lendemain, 17 novembre 1960. Nous sommes toujours dans le bureau du professeur Dawson. Mais cette fois, ce n'est plus David Hughes qui se trouve en face du directeur de l'observatoire, c'est le redoutable général Hawthorne. Et le général n'est pas content.
Le sacré nom de nom, Dawson, vous auriez dû nous en référer avant de lâcher cette damnée information qui s'est propagée comme une réaction atomique. La presse et la radio nous ont débordés, nos censeurs n'ont même pas eu le temps d'intervenir.
Vous auriez essayé d'arrêter une avalanche avec un crayon rouge ?
Est-ce que vous vous rendez compte de l'effet de votre histoire sur le moral de l'armée ?
Je l'imagine.
Vous ne vous rendez pas compte que l'ennemi va nous rentrer tranquillement dans le chou maintenant ? Ils vont pas rater l'occasion, vous pensez ?
J'imagine aussi ce qui doit se passer chez les Russes. La même chose que chez nous. Croyez-moi, général, avant de volatiliser la Terre, la nouvelle planète va faire voler en éclats pas mal d'idées et de sentiments. Et d'abord, les vieux antagonismes politiques. La vieille humanité va voir se réaliser la fédération planétaire avant de mourir. On va pouvoir rouvrir le palais de l'ONU à New York.
Ouais, tout ça, c'est très joli, mais en attendant d'être mis au rancœur, j'ai bien envie de faire passer le jeune Hughes au tourniquet.
2 ans avant la fin du monde. Songez donc que même les jeunes gens n'ont plus que 2 ans à vivre. 2 ans, tout juste, comme le vieux bonhomme que je suis. Et comme vous, général.
Avril 1961. 5 mois se sont écoulés et la prophétie du professeur Dawson s'est réalisée. L'humanité a subi une secousse morale qui a non seulement anéanti toute velléité guerrière, mais encore bouleversé tous les comportements humains. Pendant qu'on rouvrait le palais de l'ONU et que se constituait un gouvernement mondial dirigé par 2 consuls, le président des États-Unis et le maréchalissime de l'Union soviétique, tous les peuples oscillaient fébrilement entre 2 tentations, la tentation du plaisir et celle de la prière. Jamais on n'avait tant bu d'alcool, jamais on n'avait tant prié non plus. Cependant, Carol et David s'était marié dès le 18 novembre 1960 et installé dans une petite maison près de l'observatoire. Transportons-nous chez eux. C'est l'aube. David Hughes vient de rentrer d'une longue nuit de travail et embrasse sa femme qui l'avait attendue.
Et alors, David, vous avez réussi ?
Oui.
Vous avez photographié la face visible de la nouvelle planète ?
Oui, ma chérie. Le système de Dawson s'est révélé épatant.
Ah.
Plaques infrarouges, ultra-sensibles et sur impression automatique assurent une image composite des aspects principaux de l'astre.
Mais à quoi ressemble-t-elle, David, la nouvelle planète ?
C'est affreux, ma chérie. On croirait un œil.
Oh.
Un œil géant.
Ah.
Oui, oui, une sorte d'œil injecté de sang sous une paupière boursouflée. Un œil qui vous regarderait avec une fixité malveillante. Oh, c'est horrible.
À partir d'octobre, tout le monde pourra le voir dans le ciel.
Oui.
Mais on ne verra que lui dans le ciel. Il faudra vivre avec cette horreur devant les yeux. Oh, je ne pourrai pas, David.
Je t'en supplie, ma chérie, calme-toi. Ah, oublie-la, cette horreur. Oublie-la. Je t'aime, Carole. Il nous reste de longs mois d'amour à vivre.
Oh, je ne pourrais pas, David.
On tient à l'existence plus encore qu'à l'espoir. Carole a supporté l'apparition de l'œil géant dans le ciel visible des jours et des nuits. Et le 25 décembre 1962, date de la fin du monde prédite par le professeur Dawson, est arrivée. Nous ne sommes plus à Palomar. L'observatoire a été fermé faute de personnel pour l'entretenir. Mais à New York, où David et Carole sont venus passer leurs derniers jours. Nous nous trouvons avec eux dans une petite chambre d'hôtel. Une étrange lumière rouge filtre dans la pièce à travers les stores baissés jusqu'au lit sur lequel nos deux héros sont allongés côte à côte.
Quelle heure est-il, David ? Quelle heure est-il exactement ?
À quoi bon, ma chérie ?
Oh, je t'en supplie.
Il est 3 heures. 3 heures moins 3.
Plus que 3 minutes, David. Oh mon Dieu, ne nous frappez pas aujourd'hui. Pas le jour de Noël, mon Dieu. Mon Dieu, faites que le professeur se soit trompé dans ses calculs. Au moins de quelques heures. Au moins de quelques minutes.
Ah, hélas, le vieux ne peut pas se tromper, Carole.
Oh mon Dieu. Je suis sûre que vous avez simplement voulu nous effrayer. L'humanité s'est rachetée, mon Dieu. Mais il n'y a plus que des enfants qui vous craignent tous ensemble. Qui vous prient tous ensemble. Arrêtez l'œil géant, mon Dieu. Faites un nouveau miracle pour nous sauver. Les cloches, David, les sirènes, oh, c'est affreux! Et cette lumière rouge, de plus en plus rouge, la lumière de cette planète maudite qui est en train de grandir dans le ciel. Oh, David, je deviens folle! Je deviens folle, David!
Nous avons eu tort de nous enfermer, Carole. Nous aurions dû descendre dans la rue comme tous les gens, nous mêler à la foule, prier avec elle. Oh, ma chérie.
Oh, David.
Oh, ma chérie, oui, nous avons eu tort de vouloir rester seuls. Je vais ouvrir une fenêtre, Carole.
Oh, mon chéri, ne m'abandonne pas, mon chéri.
Viens. Viens, Carole. Regarde. Regarde, ma chérie.
Oh, David. David, l'œil géant. Il remplit le ciel maintenant. Et il grandit.
Oui.
Et il grandit.
Regarde la rue, Carole. Regarde cette foule à genoux. Prions avec eux, Carole.
Tu as raison. Notre Père qui es aux cieux,
que votre volonté soit faite, que votre règne arrive.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Épargnez-nous, mon Dieu.
Et pardonnez-nous nos offenses. Comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Éloignez l'œil géant. Oh ! David !
Quoi ?
David !
Quoi, Carole ?
Il ne grandit plus, David ! L'œil géant ne grandit plus !
Mais c'est vrai !
Il diminue au contraire ! Il s'éloigne ! Et tout le monde s'en aperçoit, David !
Carole !
Oh, David, nous sommes sauvés ! Nous sommes sauvés !
Carol n'avait pas été victime d'une hallucination. L'œil géant diminuait dans le ciel, s'éloignait, repartait vers les espaces infinis. La Terre était sauvée. L'humanité était sauvée. Allait-elle retomber dans ses anciennes erreurs ? Non. L'union du genre humain avait été faite, et rien ne pouvait plus la briser. Elle était cimentée d'ailleurs par une foi nouvelle, revivifiée par le miracle de Noël 1962. Le miracle ? Un homme au moins conservait un doute là-dessus. Et cet homme était David Hughes. Et David Hughes osa interroger son vieux maître.
J'avoue, David, je savais que la nouvelle planète ne ferait que frôler notre globe. Et tous les autres astronomes que j'ai réunis à Palomar pour vérifier avec moi mes calculs le savaient aussi. Mais nous avons sacrifié la vérité scientifique à la paix, David. Nous avons mystifié l'humanité pour arrêter la guerre. Nous avons annoncé une fin du monde dont nous savions qu'elle ne se produirait pas pour en éviter une autre que les États allaient déchaîner. Et je suis sûr que vous ne nous trahirez pas, David. Vous garderez notre secret. La paix du monde vaut bien une erreur volontaire de calcul, mon petit.
Nous avons aujourd'hui conté une trop longue histoire pour qu'il nous soit possible de vous donner maintenant une mise au point proprement technique. Je tiens cependant à préciser que le Mont Palomar existe, que l'observatoire du Mont Palomar existe et que son télescope avec miroir de 5 mètres, inauguré en 1948, est effectivement à l'heure actuelle le plus grand du monde. Nous reviendrons d'ailleurs sur les perfectionnements de l'étude des astres et sur les résultats qu'ils ont permis. Nous vous présenterons dans quelques semaines toute une nouvelle série d'émissions consacrées à l'astronomie. Mais en attendant, et pour que notre programme d'aujourd'hui comporte un enseignement positif, nous invitons nos auditeurs à nous écrire pour nous signaler, faites bien attention, toutes les invraisemblances et toutes les difficultés que peut comporter, selon eux, à un point de vue rigoureusement scientifique, la fiction que nous leur avons offerte et qui est une adaptation fidèle du roman d'Ehrlich, L'œil géant, dont la traduction a été récemment publiée. De notre côté, nous signalerons les meilleures réponses, nous espérons même pouvoir les récompenser aussi. Savants auditeurs, écrivez-nous donc à l'adresse Le roman de la science, 107 rue de Grenelle à Paris 7e, pour critiquer scientifiquement l'histoire de L'œil géant. Et n'oubliez pas d'en profiter pour nous apporter vos suggestions.
La radiodiffusion française vous a présenté Le roman de la science, une émission de Jean-Luc, réalisée avec le concours de Pierre Billard.
C'était Les yeux de la planète. Une adaptation par Jean-Luc de L'œil géant de Max Ehrlich, avec des interprétations de Marguerite Cassan, Marc Casso, Christian Delano et Jean Di, le tout réalisé par Pierre Billard. Première diffusion le 6 mars 1952 sur la chaîne parisienne.